Habituellement, nous enregistrons cette émission le mercredi après-midi. Et puis, pendant 2 semaines, nous ne nous sommes pas vus. Et j'aurais envie de te demander, comme quand on ne se voit pas pendant un moment, on se le fait hors antenne, mais faisons-le nous à l'antenne. Comment vas-tu, Tinément? Et puis, que s'est-il passé sur tes 2 semaines?
Non, je vais bien. J'ai, au plan personnel, été marqué par un certain nombre d'événements. Et de bonnes nouvelles, je te parlais tout à l'heure de quelque chose qui concerne celle qui m'accompagne au quotidien. Il y a eu les congés de mon fils, il fallait l'encadrer, l'accompagner. Mais il y a également au plan socio-culturel, puisque je suis en France, l'élection qu'on a vécue. Même si je n'étais pas acteur au premier rang, j'étais quand même un observateur attentif, d'autant plus qu'en Africain, en Camerounais que je suis, il s'agit quand même de ce qu'on a appelé symboliquement la métropole. On détermine le président de la France et ce choix-là impacte nécessairement sur les rapports entre les Africains et la France, entre la place même et le regard que les Africains... Bref, entre les relations entre l'Afrique, la France et le monde de façon générale. Donc, je ne suis pas resté inattentif à cette actualité-là. Et je l'ai observé et j'ai peut-être noté des choses.
Alors, j'en ai noté moi-même. Nous échangions tout à l'heure à ton arrivée sur ces questions-là. Et puis, je solliciterai ton regard, bien entendu. J'ai été moi-même, en tant que citoyen, observateur également de la vie politique, parce que nous la vivons, cette vie politique, concrètement, en tant que citoyen. Je l'ai été aussi concerné en tant que votant, également. Et j'étais impacté de manière très forte, parce que quand même, je pense que cette fois-ci, plus que d'autres fois, des choix de société ont été proposés. Des choix de société, alors comme à chaque élection, étaient proposés à travers des candidats. Et cette année, j'ai eu la sensation, finalement, que ces choix n'étaient pas tournés vers l'humain. En tout cas, les choix que nous avions à notre disposition, et je parle notamment du deuxième tour, n'étaient plus destinés vers l'humain. Il y avait des choix de société autour de la valorisation du travail, de l'excellence, de pousser vers un individualisme, en tout cas une réussite plus personnelle que collective. Puis il y avait un autre choix qui était à notre disposition, qui était celui quand même du refus de l'autre, et puis de l'enferme, du repli un petit peu. Face à ça, finalement, je me suis dit, mais ça représente tous les gens avec qui nous vivons quand même, parce que les électeurs sont les gens que nous côtoyons, mais qui nous vivons. Et finalement, ça en dit long quand même sur un monde dans lequel on vit, et puis peut-être un monde dans lequel on ne se reconnaît pas toujours, finalement.
Bon, ce sont les observations que tu as faites. Je les ai plus ou moins également faites. Il faut dire que, comme toi, j'ai noté qu'il y avait vraiment une emphase dans cette rupture entre deux catégories, deux visions du monde qui animent la société occidentale contemporaine. Il y a et notamment la société française, il y a cette tendance qui est une espèce, je dirais, de repli sur soi-même, un repli identitaire, une espèce de... Tu as bien formulé la chose, un refus de l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a aussi cette tendance qui donne l'apparence d'être une ouverture, une dilution à un modèle venu des États-Unis, le modèle consumériste, capitaliste, qui ne donne aucune place à l'homme. C'est vrai que ce qui est en face également ne donne pas de place à l'homme parce qu'il y a un rejet. Mais il m'a semblé également qu'il y avait dans l'entre-deux le phénomène Jean-Luc Mélenchon. Ce phénomène qui dit plus ou moins, ou qui laisse entendre en fond de musique, bien qu'on puisse également trouver à redire qu'il y a une possibilité de donner plus de place à l'humain, d'écouter, et que cette voix-là est entendue. Mais moi, je vais revenir de façon plus globale sur ce que représente la France. Pour nous, les Africains, et l'observateur africain que je suis, nous ne voyons l'Afrique qu'à partir de la France, l'Occident qu'à partir de la France. Parce que, bon, c'est la mère patrie. Cette relation coloniale, elle est restée comme ça. Et il me semble que ce qui se passe en Occident aujourd'hui, et notamment en France, est un problème, pour résumer, un problème d'identité. N'oublions pas qu'il y a eu le phénomène Zemmour. La France, aujourd'hui, et je dirais même que c'est un problème mondial, la mondialisation, ou alors la pseudo-mondialisation, nous demande de définir quel sera le rapport des identités culturelles dans la nouvelle façon d'être aujourd'hui. Or, cette question est tellement complexe que chez certains, la proposition première est la proposition du rejet. Pour d'autres, c'est la dilution. Pour d'autres, c'est une espèce de synthèse qui, quelquefois, n'arrive pas à se faire comprendre. Parce que la question de la synthèse elle-même doit être largement explicitée. Le philosophe que je suis, je me trouve plus ou moins confronté à ces questions-là et moi j'y ai répondu personnellement ou j'essaie de répondre à travers le paradigme du troisement. Je t'en avais parlé. Pour moi, le problème qui se pose est un problème de croisement. Inévitablement, on va rencontrer les autres. Inévitablement, on a besoin de se protéger soi-même et de promouvoir et de donner une priorité à soi-même. Mais comment cette rencontre entre nous-mêmes et l'autre se fait? Je pense qu'il y a matière, il y a des propositions à faire, sauf que, et c'est là où je vais te relancer, je vais te redonner la parole, la civilisation occidentale de manière générale et la culture occidentale ne me semble pas prête à porter ce modèle-là. Il faut peut-être qu'elle revienne à l'école et c'est pour ça que nous cheminons.
Alors, c'est une histoire, effectivement, quand on l'aborde peut-être de manière, avec beaucoup de recul, quand on dit des sociétés qui voient le rejet d'autres, qui voient la dilution d'autres, qui voient... C'est ensuite comment elle se met en œuvre, en fait, que ça devient plus compliqué. Parce que presque philosophiquement, je ne vois pas qui pourrait dire que la meilleure des sociétés serait celle qui rejette l'autre, en fait. On ne peut pas l'exprimer ainsi. Il y a des valeurs sur lesquelles personne ne pourrait dire ma société, mon modèle de société, le rejet de l'autre, ou mon modèle de société est, au contraire, une ouverture, je sais pas, en tout cas,
en réalité,
c'est dans les actes, en fait, finalement, que se dessine cette grande philosophie, dans les lois ou dans les projets.
En réalité, les phénomènes qu'on observe sont des lectures contemporaines, d'individus contemporains qui sont en face des situations contemporaines. Mais généralement, la difficulté de ces individus, c'est qu'ils situent leur perspective de lecture ou leur grille de lecture essentiellement sous un prisme d'une existence humaine, parfois de leur existence ou quelquefois de l'existence de leur fils. Ils se situent dans ce qu'on appelle une chronologie courte. Or, nous sommes là dans l'histoire des civilisations, dans l'histoire des cultures, à l'échelle des cultures, à l'échelle des civilisations. Bien que ce soit également la même chose à l'échelle de l'humain, on se rencontre, on échange, mais on doit également savoir se préserver. Il faut trouver simplement les mécanismes justes pour le faire. Sinon, soit on se dilue, soit on s'enferme, et quand on s'enferme, on s'auto-asphyxie. Mais comment dialoguer avec l'autre tout en restant soi-même, sans se perdre, sans déboucher sur le rejet, ni sur l'ustensialisation de l'homme, c'est-à-dire le fait de faire de l'homme les humains, comme le capitalisme tend à le faire aujourd'hui. Comment garder cette mesure? C'est toute la problématique.
Alors, c'est une problématique, sachant que bien souvent, cette réflexion est animée d'une espèce peut-être de nostalgie chez certains qui, avec le temps, aura laissé passer les mauvais souvenirs et on aura gardé qu'un souvenir positif fantasmé, hein, en fait. On l'a vu dans certains programmes économiques où certains voulaient revenir à une période, notamment d'après-guerre, enfin, économiquement, hein, j'entends, hein, voilà, des fameuses 30 glorieuses ou d'une période d'opulence, comme si elle pouvait revenir par des politiques.
Et je peux te dire que ce phénomène qui semble français n'est pas que français. L'Afrique en est traversée également par le même phénomène, c'est-à-dire que par certains côtés, lorsque vous regardez ce qui se passe en Afrique, la critique africaine de l'européocentrisme, bien qu'elle soit pertinente, vous allez voir qu'il y a des relents de retour ou d'éternisation à la pleurniche. On a été colonisé, on a été esclavagisé, vraiment, l'Occident nous a brimés, on ne peut pas. Il y a ce côté-là. Mais il y a également, du côté des Européens et des Occidentaux, cette attitude qui tend à refuser de regarder froidement leur histoire pour dire « on a fait ça, c'est à l'humanité, on a fait cela ». Aujourd'hui, la géopolitique du monde a changé. La place qu'on occupait hier, on ne l'occupe plus. Désormais, il faut dialoguer comme ça avec les autres. Il faut plus prendre en compte leurs éléments. Les individus ne prennent pas en compte tous ces éléments. C'est pour ça que je t'ai dit, du point de vue de l'histoire humaine, on se contente à dire nous. Mais on ne sait pas, par exemple, que celui qui vient, il vient parce qu'un de nos ancêtres est d'abord parti, est d'abord allé chez lui. Donc, il ne fait que poser l'action en retour d'une action, d'une action première. C'est l'effet retour d'une action première. Et dans cette chaîne de causalité, on ne peut pas se retourner la balle infiniment. Ultimement, il faut qu'on se pose la question du vivre ensemble. Nous sommes sur la même planète, fondamentalement. Peut-être c'est notre limitation. Bientôt, ils nous disent qu'on pourra vivre sur la planète. Et tant que nous sommes sur la même planète, le grand débat, c'est comment vivre ensemble sans que les uns ne se diluent dans les autres. Que certains gardent leur privilège de peut-être de premier arrivant, mais pas les privilèges de natifs ou alors de natifs éternels, parce qu'il n'y en a même pas. Par exemple, la question des étrangers, comme elle se pose en Occident, ou même il n'y en a pas. Si on dit, permets-moi d'être un peu long, si on dit que les Français, par exemple, sont les premiers, les Français de souche, c'est une notion absurde. Elle est absurde, pourquoi? Parce que les Français, ceux qui se considèrent comme les êtres de souche, ont certainement trouvé d'autres. L'hominisation nous le dit aujourd'hui. Alors, ils ne sont pas de souche. L'être humain lui-même, qui prétend être premier, l'histoire nous apprend qu'il n'est pas premier. Les animaux l'ont précédé. Les animaux ont été précédés par d'autres êtres. La vie est un flot, est une rivière qui coule à l'infini, dont on ne connaît pas également la source. Donc la question de la primauté ou de l'allogénie, de l'autochtonie, ce sont des questions absurdes du point de vue de l'humain. Mais comment faire vivre ces humains lorsque quand même certaines communautés se sont constituées aujourd'hui? On a des nations, certains sont français, d'autres sont camerounais. C'est toute la difficulté que pour moi les politiques n'arrivent pas et les penseurs ne s'y attardent pas particulièrement pour proposer des solutions, parce qu'il faut proposer des solutions aux politiques et qu'ils essaient de répondre.
Les solutions viennent aussi du regard qu'on pose sur notre civilisation ou sur ce que nous sommes nous-mêmes sur notre territoire. Ces questions-là sont pas faciles à trouver des sorties ou des éléments de travail parce que c'est dans le mode de raisonnement que ça vient s'ancrer tout ça. Cette notion de territoire, cette notion de tu l'évoquais, de la question de l'étranger par exemple. L'étranger, il vient d'où ? Il vient d'une nation différente, il vient d'une région différente, il vient d'un département différent ou il vient du pas-de-palier en face de chez moi ? C'est ça cette grande question aussi. Quand on parle d'étranger, on le regarde toujours sous l'angle de nation, en fait.
J'aime lire deux penseurs français parce que personnellement, je pense que la France est une très grande nation de pensée. Il s'agit de Michel Serres et de le regretter. Et d'Edgar Morin, le centenaire. Et chez Michel Serres, il y a la notion du tiers inclus. Et la pensée dominante.
Revenons sur cette notion de tiers inclus.
Oui, j'arrive. Et d'accord. La pensée dominante ou la pensée occidentale a dans sa structuration démontré qu'elle avait du mal à inclure les tiers. Il y a dans la façon dont les Occidentaux ont entretenu des rapports avec les autres, chaque fois la séparation. Le tiers est tiers. Le tiers n'est jamais vu comme celui qui est semblable. C'est pour ça qu'il peut être l'esclave. C'est pour ça qu'il peut être l'étranger, ou comme ça revient aujourd'hui. C'est pour ça qu'il peut être colonisé. C'est pour ça qu'il peut être asservi. Bien que les droits de l'homme se soient développés, ou un certain éveil se soit développé, cette notion de tiers est restée véritablement claire. Mais en théorie de la connaissance, on parle du modèle d'une pensée binaire. C'est une pensée qui coupe en deux le réel et qui dit le noir, le blanc. Le blanc est blanc, le noir est noir. Et le concept du tiers inclus, que développe par exemple le brillant philosophe Michel Serres, de regretter mémoire, c'est l'une de ces tentatives-là de dire que cette binarité n'est pas porteuse de sens. Il faut inclure une troisième alternative ou une autre alternative, celle du tiers. Je suis moi, tu es toi, mais tous ensemble, on peut former autre chose. Et cette autre chose sera mieux que toi et moi. C'est ça pour moi le sens. Et c'est pour ça que je parle du croisement, de cette rencontre pour laquelle on doit travailler tous les jours.
On évoquait la notion des élections présidentielles que nous venons de vivre, avec le résultat qu'il a eu. Et tu disais, elles sont, et notamment au Cameroun, elles sont très suivies. Quel est le regard et l'impact que ça peut avoir très directement sur les Camerounais de manière générale, mais peut-être sur l'Afrique de manière plus globale?
De manière très, si vous avez suivi l'actualité, on a par exemple le Mali, ce qui se passe au Mali avec l'armée malienne, et on est dans la confusion pour les observateurs. Il y a les Africains qui demandent à l'armée malienne de partir, moi je dirais les Africains, et qui se sentent comme dupés par l'armée française. Et il y a les Français, les citoyens français, et peut-être les hommes politiques, qui ne comprennent pas pourquoi, parce que a priori, ils seraient partis au Mali pour porter secours à un État qui était en danger. Donc, les Africains observent attentivement cela. Je vous ai dit, c'est par rapport à nos relations coloniales. Mais il se joue également ce qu'on a souvent appelé le destin de la post-colonie. Les Africains, aujourd'hui, sont traversés... sont très vivement traversés par ce qu'on appelait le panafricanisme. Mais il s'agit d'un nouveau panafricanisme qui tourne vers ce qu'on appelle le kémitisme. C'est un mouvement de retour à soi, par soi. On va même jusqu'à parler d'afrocentrisme. Et dans ce mouvement, l'élite africaine dit, si nous allons désormais dialoguer avec la France, avec l'Occident, il faut qu'on dialogue d'une autre façon. Il faut qu'ils nous écoutent et nous n'allons plus penser le monde et voir le monde à partir des lunettes occidentales. Nous devons le faire à partir de nous-mêmes. Alors, lorsqu'il y a une élection politique, il y a ce réflexe de l'ancien colonisé dont je t'ai parlé qui consiste à espérer en se disant quel est le meilleur interlocuteur qui sera en face de nous. Dans le cas, par exemple, du deuxième tour, est-ce que ce serait Marine Le Pen? Est-ce que ce serait Emmanuel Macron avec les projets qu'il porte? Pour certains, Marine Le Pen est un adversaire qu'on connaît parce que son discours est ouvertement replié sur elle-même. Elle affiche clairement le rejet. Et l'Afrique, avec l'histoire qu'elle a vis-à-vis de la France, se dit Marine Le Pen sera le prétexte d'une coupure plus radicale. Emmanuel Macron, c'est le personnage de l'entre-deux. Et certains se disent, c'est peut-être véritablement lui la voix. À travers Emmanuel Macron, on pourra peut-être avoir les moyens pour faire la transition doucement. Mais d'autres se disent, Emmanuel Macron, ça sera une énième tromperie. En réalité, il nous fera tourner en rond sans véritablement rompre, couper ce cordon ombilical avec l'Occident, pour reprendre véritablement en main notre destin. Donc voilà la lecture des Africains, des Camerounais, qui suivent très attentivement cette élection-là. Je ne peux pas te dire qu'ils ont pris parti particulièrement. Eux, ils ne regardent cette affaire qu'à partir de cet enjeu africain-là. Et tu sais aussi qu'en Afrique, il y a la question des matières premières, des exploitations des matières premières, du rapport que les entreprises françaises continuent d'avoir avec l'Afrique. Ils se disent, un président, c'est une occasion de revoir ces échanges-là de façon globale.
Aujourd'hui, et peut-être que je me trompe, mais dans ma lecture du monde et des informations qui arrivent jusqu'à moi, j'ai la sensation qu'il y a un troisième partenaire quand même aujourd'hui qui est sur ces questions politiques, des matières premières et des entreprises, c'est la Chine notamment.
Inévitablement,
aujourd'hui a pris une place importante sur ce terrain qui à une époque était bilatéral entre la France et puis les pays d'Afrique et notamment les anciennes colonies. Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'il y a quand même un troisième partenaire.
Moi, je ne parlerai pas de la Chine, je parlerai de l'Asie.
L'Asie plus largement.
Ouais. Je parlerai de l'Asie plus largement avec la Chine comme porte-étendard de cette proposition-là. Il y a ce troisième partenaire, justement, qui vient davantage complexifier la question du rapport à l'autre. Parce que lorsqu'on est deux, facilement, on pourrait se dire qu'à deux, on trouvera facilement la médiation. Mais lorsqu'un troisième une troisième proposition arrive, ça complexifie la chose. C'est la situation de l'Afrique aujourd'hui. Les Français se sentent parfois trahis et si vous écoutez attentivement les hommes politiques, ils ont l'impression que les Africains sont devenus des hypocrites et qu'ils se vendent à l'Asie. Mais les Africains en retour disent aux Occidentaux, vous nous avez pendant longtemps bernés. Il est désormais question pour nous de regarder ailleurs parce que peut-être là-bas, les échanges sont plus gagnants pour nous. Je me souviens que le Cameroun a signé, un accord militaire avec la Russie entre-temps. Le regard philosophique que moi je porte sur toutes ces situations, c'est justement, je dis, le regard du croisement. Aucun pays sur la Terre ne pourra aujourd'hui vivre en autarcie. Mais chaque pays a le devoir de protéger ce qui est son socle et ce qui est sa particularité à l'élite, aux hommes de pensée, aux hommes de culture de ces peuples, de faire le travail pour que l'harmonie puisse être entre les humains et que nous vivions vraiment dans un village planétaire.
Pour passer sur une deuxième partie d'émission où nous avons eu l'occasion d'échanger et finalement pas si loin que des chemins habituels de nos réflexions, même s'ils étaient plus ancrés dans l'actualité que nous vivons actuellement. Pour passer sur une deuxième partie, tu es venu avec un autre conte, de l'homme et du hibou.
Oui, je suis venu avec ce conte et j'ai voulu le partager avec nous, avec nos auditeurs, parce que je pense que c'est un conte pertinent, c'est un conte qui donne sens et on a à gagner à l'écouter. J'aimerais tout de suite qu'on se jette, peut-être qu'il rejoindra l'actualité, peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, il donne sens. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on l'écoute. L'histoire nous dit qu'il y avait dans un village un homme, un cueilleur de vin, qui tous les jours allait cueillir son vin et passait, lorsqu'il allait faire cette activité-là, au niveau du carrefour où les routes se croisent. Et au niveau de ce carrefour où les routes se croisent, chaque fois, pendant qu'il passait, il y avait un hibou qui chantait. Et la scène se répétait inlassablement. Chaque fois qu'il passait, le hibou chantait. Certains soirs, il lui semblait même que le hibou chantait de plus belle à son passage. Et l'homme s'interrogeait à l'intérieur de lui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce hibou chante comme ça? Qu'est-ce qu'il voit? Il a commencé à observer. Il a vu le hibou perché sur un arbre. Et il voyait le hibou lui tournait plutôt le dos. Il regardait dans une direction à côté. Il s'est dit, mais qu'est-ce que cet hibou voit? Qu'est-ce qu'il regarde? Il est taraudé par cette question et il va cueillir son vin. Il revient au village, il va cueillir son vin. Et puis un beau jour, il s'est dit, je vais voir ce que cet hibou est toujours en train de chanter. En Afrique, vous savez, si vous avez été en Afrique, je ne sais pas comment ça se passe ici. Tu m'as dit que vous avez également des hiboux. Mais les hiboux en Afrique, vraiment dans la nuit, vous les entendez, ils sont très, c'est très vif. Ils font ihouhou, 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 ihouhou. Et imaginez-vous les nuits noires d'Afrique dans la forêt, dont cet hibou chantait et sur le sentier, le monsieur passe. Et un jour, le monsieur se dit, je vais m'arrêter pour voir ce que cet hibou passe. Il s'arrête et il dit, hibou, 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 pourquoi tu me déranges même toujours? Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu fais? Le hibou ne lui répond pas. Il insiste, il demande au hibou, mais qu'est-ce que tu fais là? Tous les jours, tu me casses les oreilles quand je passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Le hibou ne répond pas. Il arrête, il change de direction, il ne va plus vers cueillir son vin. Il va plutôt vers le hibou. Il s'approche, il l'appelle. Dis-moi, il y a quoi? Qu'est-ce qui te fait chanter tous les jours comme ça? Il insiste. Il tapote le hibou ne répond pas. Il tire le hibou pour le retourner. Le hibou reste dans sa direction. En fait, le hibou avait la tête introduite dans un arbre et regardait. Alors, curieux qu'il était, il retire le hibou et il introduit sa tête de suite. Et quand il introduit sa tête, il aperçoit tout de suite ce que vous apercevrez, ce que vous appellerez ici une scène de sorcellerie. En fait, il aperçoit le collège des sorciers de son village qui sont en train de dépecer un de ses enfants. Et étonné, horrifié par cette scène, il veut crier. Il voit parmi ses sorciers des membres de sa famille. Il est choqué, il veut crier, il veut retourner tout de suite au village pour aller alerter que j'ai vu des sorciers. Et puis, lorsqu'il veut retirer la tête, c'est le hibou cette fois qui maintient sa tête dans le clou et lui dit, tu voulais voir, désormais tu vas voir. Et il tente de retirer la tête, le hibou maintient sa tête et finalement, il parvient à retirer la tête. Et il court au village. Pendant sa course, malheureusement, il essaye de dire ce qu'il a vu. Mais lorsqu'il essaie de parler, ce qui ressort simplement, c'est le cri du hibou. Ihouhou, ihouhou, ihouhou. Et il se met à crier comme un hibou. Mais ses cris sont ses tentatives à lui de raconter ce qu'il a vu. Il se trouve malheureusement que quelques jours après, son fils va partir parce que le village ne comprend pas. On est obligé après de s'arrêter sur son cas. On décide qu'il est en plein délire. Il faut le soigner, il faut l'attacher. Et il se retrouve carrément considéré comme le fou du village. Voilà l'histoire que j'ai voulu partager avec nous aujourd'hui dans notre cheminement. Il m'a semblé que cette histoire-là, elle est importante. C'est une histoire pour nous tous.
Nous resterons sur ce conte et puis nous en aurons les éléments, les clés de compréhension lors de notre prochain bout de chemin. Pour nous quitter, Tinément, as-tu une musique à nous proposer?
Est-ce que j'ai une musique à vous proposer? Je suis traversé, je commence à être traversé par les musiques de l'Occident, les musiques contemporaines de France. Je proposerai quelque chose de très urbain. Je proposerai d'écouter Soprano, Une musique que mon fils me fait écouter, c'est un clin d'œil à mon fils. Mes étoiles de soprano. C'est un clin d'œil à mon fils qui peut-être m'écoute, aux autres enfants, pour que notre causerie ne soit pas seulement une causerie d'adultes. Les contes sont comptés pour tous.
Potentiel pour faire.